7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans 7 milliards de voisins et de voisines. Tout quitter, changer de vie, prendre la fuite, larguer les amarres, redémarrer à zéro. Tout le monde y a pensé un jour, mais certains passent à l'acte. En France, près de 5000 personnes disparaissent chaque année, laissant les familles dans le plus grand désarroi, d'autant que disparaître est un droit et une liberté dans l'Hexagone. C'est au Japon que le phénomène est spectaculaire avec ce qu'on appelle les joatsu, les évaporés. Ils sont près de 100 000 par an à fuir leur quotidien. Alors pourquoi choisit-on à un moment donné de couper les ponts, de mettre les voiles sans un regard en arrière, sans laisser de traces? Ces disparitions volontaires sont-elles toujours préméditées, soigneusement organisées? Pourquoi les conjoints ou les familles tombent-ils des nues? Que peuvent-ils faire pour retrouver le ou la disparu? On va tenter de répondre à ces questions avec nos invités. Axelle Gérard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la représentante en Île-de-France de l'association ARPD, assistance et recherche de personnes disparues. Patricia Faguet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste enquêtrice spécialisée dans la recherche de personnes disparues. Vous avez un site, personnesdisparuestoutattachéeausingulier.com, et vous avez publié en 2017 « Disparus sans laisser d'adresse » aux éditions L'Opportun. Tout à l'heure, nous aurons en ligne Raphaël Languillon-Haussel, chercheur à l'Université de Genève, spécialiste du Japon et auteur de « Japonais » publié aux ateliers Henri Dougier.
7 milliards de voisins pour se parler.
7 milliards de voisins. Et aujourd'hui, on dit quoi ?
Patricia Faguet, comment vous êtes-vous spécialisée dans la recherche de personnes disparues ?
Eh bien, un petit peu par hasard, en fait, j'ai démarré ma carrière de journaliste dans l'émission Perdu de vue, qui à l'époque était présentée par Jacques Pradel, donc dans les années 90. Et ça m'a pris aux tripes quasiment. J'ai commencé comme stagiaire, j'ai été engagée très vite parce que j'ai trouvé ça fascinant et passionnant et j'ai révélé un goût pour l'enquête quasi immédiat. Et donc quand l'émission s'est arrêtée, bah, j'ai publié un guide qui s'appelait « Disparu, comment les retrouver ?». J'ai fondé un site internet, enfin, j'ai continué à aider les gens à ma manière puisqu'il n'y avait plus de... À part les recherches dans l'intérêt des familles, il n'y avait plus de moyens qui étaient à la disposition des gens pour retrouver un proche.
Est-ce que le fait que votre grand-mère soit née sous X, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais su qui étaient ses parents biologiques, vous pensez que ça a joué dans votre fascination pour ce phénomène des disparitions volontaires ?
Oui, je pense que j'explique mon intérêt par ce drame familial que je n'ai découvert qu'après d'ailleurs, quelques années après mon arrivée à Perdu de vue. Et je pense que oui, ça a dû... Ça explique probablement mon intérêt, pour, en tout cas pour les enfants abandonnés et pour les personnes disparues.
Axelle Girard, est-ce que le cliché, il est parti chercher un paquet de cigarettes et n'est jamais revenu, en fait, se produit souvent ?
Ça arrive, oui, absolument. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup, nous, au niveau de la RPD, et des bénévoles donc, qui travaillent au sein de l'association, donc je confirme.
Il faut faire une distinction, et c'est peut-être la difficulté, entre les disparitions volontaires et les disparitions inquiétantes.
Moi, je dis souvent que je m'interroge beaucoup sur la question, justement, de la disparition volontaire. Dans quelle mesure est-ce qu'on est libre de disparaître, quand on sait qu'en France, il y a quand même 60% des disparitions d'adultes derrière lesquelles, en fait, vous avez une situation de détresse, quelle qu'elle soit. Dans quelle mesure est-ce que la liberté intervient dans ces disparitions, finalement, la question du choix.
Et est-ce que ce chiffre de 5000 disparitions volontaires par an en France est fiable, d'après vous ?
Je sais qu'en tout cas, en moyenne, il y a à peu près 200 disparitions par jour en France. Donc c'est quand même un chiffre qui interpelle.
Et vous en traitez combien, vous, à votre association, par mois, par exemple ?
Je peux vous répondre par semaine. On a à peu près 3-4 dossiers par semaine qui arrivent. Souvent, les gens ne vont pas jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire ne remplissent pas systématiquement le dossier qu'on leur envoie. Or, nous en avons besoin pour effectuer nos recherches. Donc ça représente, en fait, on va dire, un dossier par semaine.
Et vous, Patricia Faguet ?
Moi, je dirais un peu plus. Moi, je pense que je reçois à peu près une dizaine de mails par jour.
Et Axelle Girard, quand une personne majeure s'évapore subitement dans la nature, qu'elle ne donne plus aucun signe de vie, à partir de quand et sur quelle base les familles peuvent-elles donner l'alerte, c'est-à-dire se rendre à la police pour signaler la disparition ?
C'est très variable. En fait, en termes de droit, on peut aller à la police tout de suite, très vite, au bout de 2, 3, 4 heures. Mais nous, ce qu'on voit au niveau de la RPD, c'est que vous avez des gens qui nous interpellent soit immédiatement, dans les heures qui suivent la disparition, ou bien parfois plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années après.
Parce que qu'est-ce qu'on leur dit quand ils se rendent à la police? Qu'est-ce qu'on dit à ces familles qui sont, j'imagine, sous le choc?
De deux choses l'une, soit la disparition est qualifiée d'inquiétante sur le fondement de critères qui sont établis et que tout le monde reconnaît en tant que tel, c'est-à-dire une personne qui est dans une situation de détresse, qui est malade, qui est sous tutelle, elle, sa disparition, à l'instar des disparitions de mineurs, va être immédiatement traitée comme disparition inquiétante, ou bien, à contrario, vous avez des gens, effectivement, dont on présume que leur disparition n'est pas inquiétante. Et là, les services d'enquête mettent en avant la liberté d'aller et venir, et la liberté de la personne majeure de disparaître.
Qui est reconnue par la loi.
Effectivement, qui est reconnue.
Patricia Faguet, quand on présume qu'une disparition n'est pas inquiétante, mais est-ce qu'on peut le présumer justement tant qu'on n'a pas enquêté sur cette disparition?
Oui, parce que il faut arriver à déterminer dans quelles circonstances la personne a disparu, si elle était suicidaire, si elle était malade, atteinte de la maladie d'Alzheimer par exemple, si elle avait l'habitude de donner des nouvelles à ses proches ou pas. Il y a plusieurs critères qui vont être définis dès le départ et qui vont permettre de cerner la typologie de disparition.
Alors quand les familles se rendent à la police, vous, Axel Girard, votre association, vous recommandez aux familles de déposer une main courante. À quoi ça sert finalement ?
On recommande effectivement aux familles d'aller voir les services d'enquête, ne serait-ce que pour signaler déjà la disparition, pour qu'elle ait paradoxalement une existence. Je dis paradoxal parce que quand une personne justement s'évapore, pour reprendre le terme que vous avez utilisé, elle ne laisse aucune trace, elle disparaît, sort des radars. En allant voir la police ou la gendarmerie, selon la zone urbaine ou rurale, vous déclarez un fait, vous déclarez une disparition. Donc elle se met à exister. Et cette absence, finalement, finit par s'incarner. Elle a une existence matérielle et juridique.
Et vous recommandez aussi aux familles de donner les empreintes du disparu ou de la disparue au fichier national automatisé des empreintes génétiques. Pourquoi ?
À partir du moment où une personne disparaît, elle est inscrite donc au fichier des personnes recherchées et la plupart du temps, effectivement, aussi dans ce fichier que vous venez de mentionner. Aujourd'hui, avec l'évolution des techniques, des technologies, on va de plus en plus aussi vers l'exploitation de ces éléments. Donc c'est très intéressant. Je fais une parenthèse là-dessus parce qu'on est vraiment dans un moment où l'intelligence artificielle, où toutes ces choses qu'on exploitait autrefois selon des modalités selon des modalités X ou Y, demain on va pouvoir les exploiter d'une façon beaucoup plus intéressante et vraisemblablement beaucoup plus opérationnelle.
Alors, il y avait une procédure avant qui s'appelait la procédure de recherche dans l'intérêt des familles. Pourquoi cette procédure a-t-elle été abrogée en 2013? Qui veut répondre, Patricia Faguet?
Oui, elle a été abrogée en 2013 parce que, déjà, c'était une procédure qui avait été créée pendant la Première Guerre mondiale pour pouvoir retrouver les soldats qui étaient partis au front. Donc, c'était un peu désuet. Et c'était pas très efficace puisqu'on a, en fait, on attendait que le disparu soit contrôlé au hasard d'un voyage en train pour lui signaler qu'il était recherché. Il n'y avait pas d'enquête administrative qui était à proprement parler menée. Donc elle s'est arrêtée, cette procédure, parce que d'une part, elle était inefficace. On ne pouvait pas se permettre de mettre trop d'agents bloqués sur ces affaires-là. Et les services de police partaient du principe qu'avec les réseaux sociaux, désormais, les gens pouvaient se débrouiller par leurs propres moyens.
Alors que sont devenus les dossiers qui étaient en cours au moment de l'abrogation de cette RIF ? Axel Girard, vous savez.
Alors on a souvent des gens effectivement qui viennent encore nous parler des RIF. C'est très surprenant et qui ne sont pas au fait de la disparition donc de ce dispositif en 2013. Là dernièrement. Pour prendre un exemple tout à fait concret, on a une famille qui nous a demandé de rechercher une personne disparue en 1976 et qui nous a communiqué les documents qui étaient remplis dans le cadre des recherches pour l'intérêt des familles.
Donc du coup, les familles se sentent complètement démunies.
Après la disparition des RIF, la RPD a une activité qui a beaucoup progressé parce qu'effectivement, les familles vivent ça vraiment comme un abandon de la puissance publique.
Donc le recours, c'est s'adresser à vous, à votre association, ou à vous, Patricia Faguet, votre site internet, ou à des détectives privés, j'imagine.
Oui.
Combien ça coûte un détective privé pour mener ce genre d'enquête? Est-ce que vous le savez?
Ça peut coûter très cher. En fait, tout dépend des pratiques des différents détectives. Mais il est vrai qu'on rencontre aussi des familles qui viennent nous voir après avoir été, entre guillemets, abusées par un détective privé qui fonctionne au forfait et qui vous dit « Voilà, écoutez, donnez-moi 5 000 euros. Pour les 5 000 euros, je vais faire ceci, cela. » Mais en aucun cas, moi, je trouve ça très intéressant ce que fait Patricia Faguet, parce qu'elle a l'honnêteté de dire, voilà, soit je retrouve la personne et je suis payée, soit, à contrario, je la retrouve pas et je suis pas payée. Un détective privé, il peut très bien, encore une fois, ça n'engage pas, c'est pas tous les détectives privés, mais il y a des détectives privés qui peuvent vous dire, donnez-moi temps, je vous garantis pas que je retrouverai la personne, mais au moins, je vais commencer les recherches. Bon, après... Voilà, mais les familles se sentent évidemment un peu flouées.
Et votre association, vous, les services sont gratuits, vous travaillez avec des bénévoles.
Nous demandons une cotisation des familles de 30 euros, pour être tout à fait précise, et ça recouvre effectivement l'ensemble des démarches que nous effectuons. Et
Patricia, donc vous travaillez au résultat.
C'est ça.
J'établis
un devis au départ en fonction des éléments que les personnes me communiquent. Donc on se met d'accord sur un tarif qui n'est réglable que si je retrouve la personne.
D'accord. On va prendre un appel d'auditeur. Bonjour So.
Bonjour madame.
Vous nous appelez de Koldo au Sénégal. On vous écoute So.
Oui, c'est à Kolda, dans la région de Kolda, à Velingara plus précisément.
Kolda, pardon.
C'est Mamadou So. Je suis particulièrement intéressé par cette émission, surtout ce thème, parce qu'effectivement, nous avons perdu de vue notre frère qui s'appelle Boubacar So depuis 1998. Et il est parti comme ça. Nous l'avons qualifié, disons, de départ volontaire, si je peux employer ce terme. Il n'a pas donné de signe de vie. Son papa est décédé entre-temps. Sa maman est vieillissante. Et c'est vrai que nous, la famille, nous n'avons pas entrepris les démarches nécessaires depuis lors. Si ce n'est moi aujourd'hui qui ai décidé de vraiment rechercher, faire des recherches et essayer de le trouver, parce que vraiment la situation commence à m'intriguer, moi en tout cas, très particulièrement.
Axel Girard, comment vous réagissez au témoignage de Mamadou So ?
C'est un témoignage donc, qui me touche, comme finalement toutes les personnes qui viennent nous voir en tant qu'association. Là c'est d'autant plus triste que finalement le père décède dans l'intervalle, la mère est vieille manifestement. Dans quelle mesure est-ce que c'est une disparition volontaire ? Je crois que c'est vraiment la question qu'il faut se poser. Et dès lors qu'on parle de disparition volontaire, il est parti librement, elle est partie librement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle est cette liberté qui tout à coup est mise en avant pour justifier une disparition ? Dans quelle mesure est-ce que c'est une liberté ? Dans quelle mesure est-ce que c'est un libre choix ?
Vous avez fouillé dans l'histoire de la famille pour essayer de trouver une explication à ce départ, Mamadou ?
Oui, alors moi j'ai effectué quelques recherches, effectivement. Et en fait, ce qu'il faut comprendre à la base, c'est que lui, il n'a pas grandi dans la famille. Il a été amené dans un dara qui n'est pas dans la ville, même pas dans la zone. Donc, il n'a pas grandi avec la famille. Après, il est revenu, il était un peu isolé. On sentait nettement qu'il n'était pas très intégré dans la famille. Et il y a même ma maman qui disait à un moment donné, elle pensait que quand il va au dara, il revient. Il va changer en fait de comportement, il va être plus impliqué dans la famille et finalement, on va dire que c'était un échec. Et à un moment donné, il nous a dit, bon, il va aller à un village à côté. Je me souviens, un an plus tard, il est revenu parce que justement, le frère de notre papa, il était décédé. Il est revenu pour présenter les condoléances. Et c'est ce jour-là qu'on n'a plus eu de nouvelles de lui. Il est parti comme ça et depuis lors... Je pense que les seules démarches vraiment que nous avons entreprises, c'est aller voir des voyants qui nous disent non, il est vivant, d'autres nous disent non, il est décédé. Aux dernières nouvelles, il était en Côte d'Ivoire, mais vraiment, c'était pas des informations fiables. C'est pareil, on a eu aussi d'autres informations qui nous disaient qu'il est en Espagne. Mais voilà, jusqu'à présent, on peut pas dire concrètement, c'est ça. Et du coup, puisqu'il n'était pas malade, il n'avait pas ces symptômes qui montraient des dépressions. Donc on se disait que voilà, c'était un départ, c'était volontaire de sa part.
Merci beaucoup Mamadou de nous avoir appelé de Kolda au Sénégal. Bonne journée. Patricia, vous vouliez réagir au témoignage de Mamadou ?
C'est ce qui est intéressant, c'est d'entendre qu'il explique que son frère n'a pas grandi avec la famille, donc c'est quelqu'un qui n'a pas d'attache au départ familial, et c'est souvent le cas des disparus volontaires d'ailleurs, ce sont des personnes souvent qui viennent de la science publique ou qui ont eu des carences affectives, en tout cas dans l'enfance.
Justement, d'une manière générale, pourquoi les gens choisissent du jour au lendemain, subitement, de disparaître ? Vous dites, Patricia, ou vous avez dit, on ne part jamais de gaieté de cœur.
Oui, c'est un constat d'échecs. C'est souvent d'ailleurs à la suite d'une situation d'endettement, de rupture professionnelle et sentimentale, de conflits familiaux. Donc on part par dépit, quoi.
Axel, vous êtes d'accord ?
Je rejoins tout à fait ce que dit Patricia. Je crois aussi qu'on est dans une société aujourd'hui qui est hyper connectée, où il est très facile de retrouver la trace des gens. Il peut demain y avoir des gens qui choisissent de disparaître tout simplement, voilà, sans laisser de traces, et de tout rompre, parce que finalement, enfin voilà, de faire une rupture franche et radicale et d'exercer donc sa liberté, tout simplement parce qu'aujourd'hui c'est très difficile d'arriver à disparaître à moitié. Donc peut-être que demain on verra des gens qui choisissent justement ce mode de rupture radicale pour, voilà, que la rupture soit franche et nette, très claire, ne pas laisser de traces, partir et essayer d'ouvrir, voilà, une nouvelle page, de recommencer sa vie ailleurs. Ce que je trouve très intéressant dans le témoignage aussi, comme le dit Patricia, c'est le maintien finalement d'attaches qui sont très incertaines. Il y a à la fois des attaches et à la fois il n'y en a pas. Il part, il revient. Il y a un événement familial majeur, il est là. Nous, c'est quelque chose à quoi on est confronté aussi. C'est des gens qui disparaissent à moitié, si j'ose dire. C'est-à-dire des gens qui disent volontairement qu'ils font une... Enfin, je prends un exemple tout à fait concret et récent. Une personne qui écrit, qui couche sur le papier sa volonté de disparaître, qui s'en va, et puis qui en fait... est retrouvé, disparaît à nouveau, est susceptible de revenir, dit qu'il va revenir. Enfin, c'est des choses qui sont extrêmement compliquées. Donc, parler de disparition volontaire, j'ai envie de dire qu'on peut très bien mettre un S aussi.
Et comment on arrive à disparaître sans laisser de traces ? Parce que quand les gens disparaissent, ils partent sans leur passeport, leur carte d'identité, sans carte bancaire, sans carnet de chèque, sans téléphone portable. Ils laissent tout derrière eux, en général ?
Alors, nous, on rencontre de tout. On voit tout. On voit des personnes qui, effectivement, laissent absolument tout derrière elles. Et à contrario, des gens qui gardent un téléphone portable. Et qui, donc, par définition, vont laisser une trace qui sera exploitable par les services d'enquête ou bien par l'association, les familles, etc.
Et alors, comment vous menez l'enquête, Patricia Faguet ? Vous commencez par quoi ?
Ah ben, il n'y a pas de règle. Ça dépend des typologies de disparition. Mais je vais utiliser une dernière adresse précise, par exemple. Moi, je m'occupe uniquement des disparitions volontaires. Donc les disparitions inquiétantes, justement, la personne qui disparaît sans son téléphone portable et sans ses papiers d'identité, typiquement, c'est une disparition inquiétante. Il y a peu de chances qu'on retrouve la personne en vie, quand même.
Il ne peut pas y avoir de disparition volontaire où, justement, la personne fait exprès, sciemment, de laisser son portable, ses papiers d'identité, etc. Vous n'y croyez pas ?
Non, parce que la personne, si c'est un départ volontaire, elle va anticiper un minimum, même si c'est inconscient, mais elle va anticiper un minimum son départ, donc elle ne partira pas sans ses papiers. On ne fait rien sans papiers d'identité, donc...
Mais si on prépare avant, si on s'organise pour avoir de faux papiers, si on ouvre un compte bancaire dans un paradis fiscal, si on réussit à mettre de l'argent en liquide caché quelque part, Axel Gérard.
On est vraiment à la frontière entre la disparition volontaire et la clandestinité, si j'ose dire. Ça devient très très compliqué à partir du moment où on s'invente vraiment une autre vie, où on devient autre. Là, bon, je m'interroge, est-ce que c'est encore... comment est-ce qu'on qualifie ça Donc je, enfin voilà, c'est plus.
Mais là on touche à de la criminalité parce que
aussi
le quidam ordinaire ne peut pas se procurer de faux papiers comme ça, ne va pas penser, enfin n'a pas la facilité d'ouvrir un compte bancaire à l'étranger. C'est rarement anticipé à ce point-là.
Et est-ce que ces départs volontaires se font sous le coup d'une impulsion ? J'en reviens au paquet de cigarettes qu'on est censé aller acheter dans la rue et on ne revient pas. Vous avez constaté que ces départs sont impulsifs ?
C'est toute la question. Finalement, quand vous vous retrouvez face à une personne, face à une famille qui vous dit voilà, mon épouse, mon mari, mon fils, ma fille, que sais-je, ma cousine a disparu. La question c'est pourquoi. À moins effectivement de coucher ça sur le papier et de dire je m'en vais, laissez-moi tranquille, ou bien, puisque c'est un sujet qui intéresse au premier chef, Patricia Faguet, une personne qui accouche et qui laisse un enfant, qui fait naître un enfant sous X. Là, c'est très clair, les choses sont très claires. Mais à contrario, dans la vie de tous les jours. On ne sait pas nécessairement si c'est une disparition volontaire. Et même, quand bien même on a la preuve que la personne a souhaité disparaître volontairement, on peut toujours se poser la question de dans quelle mesure. The second someone mentioned you are all alone, I could feel the trouble coursing through your veins. Now I know it's got a hold. Just a phone call left unanswered had me sparking now. These cigarettes won't stop me wondering where you are. Don't let go. Keep a hold.
If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, cause we've all made mistakes. If you've lost your way, yeah, I'll leave the light on. What's been on your mind? Lately you've been searching for a darker place to hide. That's alright. But if you carry on abusing, you'll be robbed from us. I refuse to lose another friend to drugs. Just come home. Don't let go. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, cause we've all made mistakes. If you've lost your way, I'll leave the light on.
Lighton, Joe Walker dans 7 milliards de voisins sur RFI. On continue à parler des disparitions volontaires avec la journaliste enquêtrice Patricia Faguet, spécialisée dans la recherche de personnes disparues, et Axel Girard, représentante en Ile-de-France de l'association Assistance et Recherche de Personnes Disparues, la RPD. On va parler maintenant d'un pays, le Japon, où les personnes qui disparaissent, 100 000 chaque année, sont appelées les Joatsu, les évaporés. Raphaël Languillon au bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'Université de Genève, spécialiste du Japon et auteur de Japonais, publié aux ateliers Henri Dougier. Pourquoi la question des disparitions volontaires est-elle taboue au Japon ?
Alors, effectivement, c'est parce que ça concerne une forme d'honneur. Vous savez, avec Yukio Mishima qui a écrit Confession d'un masque, le visage public, celui qu'on montre, est très important. Et lorsqu'il est pris en défaut, du coup, lorsqu'on choisit de s'évaporer, même si le choix est parfois contraint, évidemment, ça devient une honte pour soi et puis surtout pour ses proches et la famille.
Donc c'est un phénomène qui est ancré, vous diriez, dans la culture nippone ?
Oui, en tout cas le tabou est effectivement ancré dans la culture nippone depuis très longtemps, même s'il s'est accéléré dans les années 90.
Et il s'est accéléré pourquoi ?
Alors, c'est lié à la crise, essentiellement. En 1991, c'était l'éclatement de la bulle spéculative, la fin d'un modèle, d'une réussite du miracle japonais. Et beaucoup de dettes ont été contractées, du coup, par les entreprises, les particuliers, qui ont choisi de s'évaporer pour éviter leurs créanciers.
Donc, c'est pour sauver son honneur qu'un Japonais, qu'un évaporé, choisit de s'évanouir dans la nature.
Dans la plupart des cas, effectivement, alors que ce soit un honneur lié à l'incapacité à rembourser une dette, à prendre en charge sa famille, en particulier dans des maladies ou ce genre de situations difficiles.
On part toujours pour de mauvaises raisons.
On part souvent pour de mauvaises raisons. C'est rare de partir pour une raison positive. Il y a quand même un abandon derrière.
Ce chiffre de 100 000 disparitions, ça nous paraît énorme. Ça l'est ou pas par rapport à l'échelle du pays ?
Alors, le Japon est quand même deux fois plus peuplé que la France, donc c'est vrai que rapporté à la population totale, ça nous fait du 0,07%, donc c'est pas un chiffre si important, même s'il est quand même un peu plus élevé que pour le cas français, effectivement.
Il existe, je crois, des sociétés qui organisent ces évaporations, entre guillemets. Comment ça se passe ?
Exact. Alors c'est souvent d'ailleurs d'anciens évaporés eux-mêmes qui organisent l'évaporation de personnes qui veulent suivre le même chemin qu'eux, ou alors des organisations mafieuses qui récupèrent dans un monde un petit peu off, un petit peu sombre, des populations fragiles.
Parce que ces disparus volontaires, ces évaporés, forment une société parallèle, bon, c'est ce qu'on peut dire, dans les bas-fonds des mégalopoles japonaises ?
Et exact, on les retrouve effectivement dans certains quartiers qui sont des zones, pas vraiment de non-droit, mais qui sont laissées à l'autogestion des familles Yakuza. Ça peut être Sanya à Tokyo, Kotobuki à Yokohama ou encore Kamagasaki à Osaka, qui sont des espaces où se trouvent les populations donc d'évaporés, les organisations mafieuses, certaines ONG pour les prendre en charge, parce que ce sont souvent des populations avec plusieurs troubles, drogue ou prostitution ou ce genre de maladies, etc. Et puis on trouve également tous les services associés, comme par exemple les agences d'emploi précaires. Voilà.
Donc ça veut dire que cette vie que mènent ces évaporés n'a rien d'une vie idéale. C'est un peu sombre comme tableau que celui que vous nous décrivez.
Ah oui, complètement. C'est vrai qu'on peut avoir cette image un peu romantique de la personne qui quitte tout pour une nouvelle vie et puis qui devient une sorte de vagabond, qui voyage vers des contrées lointaines et exotiques. En vérité, non, c'est pas du tout ça. La plupart, alors 30% se suicident d'une part, et d'autre part, ils sont récupérés très souvent par la mafia, et donc ils occupent ensuite des emplois précaires qui sont souvent pénibles, dangereux et sales. On les a retrouvés par exemple autour de la gestion de la catastrophe de Fukushima qui a été en 2011, qui a été la dernière grande campagne de recrutement d'évaporés, en particulier à Sanya et à Kotobuki par exemple.
Et est-ce que, comme en France, il existe des structures, des associations ou des sites internet qui s'occupent de retrouver les personnes qui disparaissent volontairement ?
Oui, alors il y a des associations effectivement. Mais c'est souvent quand même des démarches individuelles, des démarches des familles qui vont faire appel à des enquêteurs privés qui essayent de retrouver les évaporés lorsque les familles le souhaitent, sachant qu'au bout de 7 ans, les familles peuvent déclarer comme mort un évaporé qui n'a plus donné de nouvelles, administrativement parlant.
Et quel est le pourcentage de ces évaporés qui choisissent un beau jour de revenir, de ressurgir ?
Alors, il n'y a pas de chiffre officiel, peu néanmoins d'après les témoignages. Et puis, ce n'est pas dit non plus qu'il reste, puisque la cassure au sein de la famille, l'impact psychologique fait que la situation est parfois intenable. Et donc, ces gens-là peuvent repartir ensuite assez rapidement.
Merci beaucoup, Raphaël Languillon-Haussel, d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Université de Genève et auteur de Japonais, publié aux ateliers Henri Dougier. On va continuer à parler des disparitions volontaires. Patricia Faguet, vous dites « Je ne suis ni flic ni détective privé ». Alors, comment vous faites pour enquêter ?
Et avec des méthodes de journaliste. Donc je tire sur chaque ficelle, je compare mes informations, l'idée étant de retrouver la bonne personne, et non un homonyme, parce que voilà, on n'a pas tous des noms rares. Donc moi j'utilise tous les moyens qui sont à ma disposition, donc je démarre de l'identité de la personne évidemment, le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance. Et puis après, j'ai des contacts aussi dans les administrations.
Justement, est-ce qu'il y a des fichiers publics qui sont accessibles à tout le monde et sur lesquels on peut grappiller ?
Non.
Dans lesquels on peut
Non, malheureusement non. Mais on est tous fichés partout. C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple tout bête. Vous allez chez Darty, vous êtes obligé de vous enregistrer dans leur fichier en tant que client. Donc rien ne vous interdit de demander au vendeur de Darty si il peut tenter de taper un nom. Puisque ça couvre toute la France, c'est des réseaux nationaux.
Ça, on a le droit de le faire.
On n'a pas le droit, mais vous pouvez tomber sur quelqu'un de très sympathique, voilà, ou chez Carrefour, on a tous des cartes de fidélité, on est fichés partout. Donc ça peut être des moyens comme d'autres pour retrouver une personne.
Est-ce qu'il y a des cas où vous refusez la demande ?
Oui, moi il faut que ce soit affectif déjà. Si des personnes recherchent un disparu pour régler un héritage, parce qu'évidemment quand une personne disparaît, ça bloque la procédure de succession. Et bien dans ces cas-là, moi je ne m'occupe que des affaires de famille et des demandes qui sont affectives.
Axel Girard, comment s'y prend votre association pour mener ce travail d'enquêteur, de détective ?
Je crois que les méthodes des journalistes sont parfois bien plus redoutables que celles des services d'enquête réguliers et officiels. Nous, on utilise tous les moyens légaux qui sont à notre disposition. On a à la fois des policiers en activité qui sont parmi nous. On en a peu, mais on en a quelques-uns. On a beaucoup de policiers à la retraite. On a des gendarmes aussi à la retraite. Et on a des détectives privés qui agissent à titre purement bénévole dans le cadre de l'association. Mais je tiens beaucoup à dire ça, pour un peu paraphraser Patricia, nous ne sommes ni flics ni détectives, nous non plus, nous ne sommes pas ça, nous sommes des bénévoles, donc au service des familles, et donc nous avons à notre disposition tous les moyens légaux, réguliers, d'enquête possibles, et comme le dit aussi Patricia, on a aujourd'hui beaucoup, beaucoup de choses qui permettent de tracer et de retrouver les gens.
Par exemple ?
Par exemple, tout bêtement, les réseaux sociaux. Tout bêtement, les empreintes que vous laissez ici et là, parce que vous êtes intervenu sur un forum un jour, parce que vous avez laissé une photo à tel ou tel endroit. Puis aussi, nous, on a la chance, donc compte tenu de notre positionnement, de notre position, nous sommes tous bénévoles, les familles nous parlent beaucoup. Les familles nous disent beaucoup de choses, et au cours des conversations que nous avons avec elles, nous obtenons des renseignements de facto. Et donc, on peut les exploiter ensuite dans les procédures de recherche qui sont les nôtres.
Vous pouvez comprendre que, par exemple, le disparu avait un intérêt pour tel ou tel pays, telle ou telle région.
Absolument. Ça me permet de dire un mot des personnes qui disparaissent volontairement en partant dans des pays étrangers. C'est très compliqué après pour nous, en tout cas en tant qu'association aujourd'hui, et nous travaillons là-dessus, nous allons travailler là-dessus notamment avec un gendarme qui aujourd'hui est à la retraite et qui s'intéresse beaucoup à ça, sur la question donc des disparitions dans les autres pays. Voilà, une personne qui choisit de partir ailleurs, comment est-ce qu'on peut la retrouver ? Aujourd'hui c'est très compliqué. Typiquement, les démarches qu'on peut faire auprès du consulat, par exemple à Londres, on se heurte à un refus systématique parce que la loi c'est ça, non, on ne vous aidera pas à retrouver telle ou telle personne. Et puis après il y a aussi évidemment toutes les questions qui se posent des modalités de recherche des personnes ailleurs que sur le territoire.
Et en général, les enquêtes que vous faites sur des personnes disparues volontairement, le résultat c'est quoi ? C'est les personnes sont restées en France ou bien elles sont parties à l'étranger ? Est-ce que vous avez une idée du pourcentage ?
La majorité se trouve en France. Il y a quelques histoires, mais c'est parce que c'est des personnes soit qui se sont mariées avec un étranger, mais des personnes qui quittent tout pour partir s'installer à l'étranger, j'ai peu de cas comme ça.
Axel ?
Nous avons aussi les deux cas, c'est-à-dire des personnes qui effectivement se trouvent à l'étranger, mais la plupart, en tout cas compte tenu de mon expérience à moi, se trouvent sur le territoire.
On va écouter un autre témoignage d'auditeur, celui d'Abdoulaye, qu'il nous a laissé sur WhatsApp.
Bonsoir les voisines et les voisins, c'est toujours Abdoulaye Oldou, l'un de vos voisins du Cameroun, des Marois bien sûr. Alors c'est vrai, il arrive à chacun de nous un jour ou l'autre de vouloir tout abandonner et vraiment partir. J'ai vécu cette expérience, pas moi, c'est un oncle qui a été déçu, qui a décidé tout abandonner. Sans laisser de traces, il est parti. C'est une déception familiale. Donc c'était un problème, je ne sais pas, d'héritage, quelque chose. Lui, il n'a pas pu digérer ça, alors il a disparu, il est parti, sans laisser de traces. Aujourd'hui, nous, on a eu cette chance, on l'a retrouvé de l'autre côté du Tchad, plus précisément à Pala. Il est allé s'installer là-bas, on l'a vu dans un marché à bétail, en train de vendre les bœufs. Mais malheureusement, il n'est jamais rentré. Il a fondé sa famille là-bas. Il est resté jusqu'à nos jours que je parle. Il est là-bas avec ses enfants dont on ne les connaît même pas. Donc, il a refusé de venir.
Comment vous réagissez à ce témoignage d'Abdoulaye, Patricia ?
Et c'est assez étonnant déjà que les personnes ne veuillent pas revenir, parce qu'en général, moi j'ai constaté que quand on disparaît, c'est parce qu'on manque d'affection, qu'on n'ose pas le formuler, qu'on ne sait pas le formuler, et donc on est plutôt heureux d'être retrouvé, c'est une preuve d'amour en fait, d'être recherché et retrouvé, donc En général, il y a plus de 95% des gens qui sont ravis d'être retrouvés.
Axel Girard, quand vous retrouvez les gens, ils sont généralement soulagés ou ils peuvent être aussi quand même furieux et en colère?
Je prends un exemple très concret où là, nous avons réussi à localiser une personne qui était furieuse. Un monsieur qui voulait absolument pas être retrouvé, il était pas content du tout et au point qu'il a redisparu.
Il était parti depuis combien de temps?
Et il était parti depuis une quinzaine de jours à peu près. Et donc nous avons une bénévole donc en région Île-de-France, à Paris, qui a réussi à retrouver cette personne. Et cette personne a dit, écoutez, bah non, moi je voulais partir, donc basta, et je m'en vais.
Et dans ces cas-là, est-ce que vous essayez de discuter avec lui, de le raisonner ou pas du tout?
C'est là que c'est très compliqué. Dans quelle mesure est-ce qu'on est finalement fondé à discuter de la liberté d'une personne, de son désir justement de rompre et de couper tous les liens? Est-ce que c'est notre rôle? Je ne suis pas sûre.
Patricia?
Parfois, on sert de médiateur entre des gens qui n'arrivent plus à se parler. Donc moi, j'essaie toujours... C'est rare, hein, les refus, franchement, j'en ai très peu souvent. Mais je vais toujours essayer de comprendre les motivations du refus et de... Bon, alors, il y a des cas... C'est vrai que les cas de refus que j'ai, c'est parfois... Il y a eu des violences dans la famille, par exemple. C'est un enfant qui a été battu par le père ou maltraité et qui ne veut pas revenir. Mais en général, d'ailleurs, c'est pas les parents qui recherchent les enfants, c'est plutôt des enfants qui recherchent un parent. C'est la majorité des cas. Mais
donc, vous n'arrivez souvent, quand ils ne veulent pas revenir, vous respectez leur volonté.
Dans ces cas-là, oui. Quand il y a quelque chose de grave qui s'est passé dans la famille, bien sûr. Mais j'essaie toujours de comprendre la motivation de la personne et de faire en sorte qu'ils se parlent, au moins qu'ils se disent qu'ils veulent plus voir, mais qu'ils sont en bonne santé, qu'ils se rassurent. Parce que l'angoisse de la famille qui reste, c'est de ne pas savoir ce qu'est devenue la personne disparue. Est-ce qu'elle est vivante? Est-ce qu'elle est en danger? Donc c'est d'essayer de comprendre, oui.
Mais qu'est-ce qui se passe quand la personne, par exemple, vous dit « je suis partie et je n'ai laissé aucune trace, je ne veux pas qu'on me retrouve, je ne veux même pas que vous disiez quoi que ce soit à ma famille ». Est-ce que vous respectez ce choix?
Bien sûr.
Oui, Axel Girard?
Bon, je voulais réagir à ça parce que notre association donc, milite pour la reconnaissance d'un statut du disparu volontaire, de la disparue volontaire, ce qui permettrait pour les familles, finalement, que le point d'interrogation ne soit pas un point final. Voilà, et vraiment de au moins, sinon de connaître le motif de la disparition, au moins de savoir que la personne est en vie, qu'elle va bien, qu'effectivement elle a fait le choix de couper les ponts, mais qu'elle est en vie et qu'elle va poursuivre son existence ici ou là. Mais au moins, voilà, pour les familles, d'avoir une réponse. C'est-à-dire, nous, on a souvent des familles qui nous disent « Écoutez, dites-moi qu'il est mort, dites-moi qu'on l'a retrouvé, dites-moi qu'il est blessé, je ne sais quoi, mais au moins dites-moi qu'il est toujours là, qu'il vit toujours, qu'il est toujours parmi nous. »
Et vous, même question qu'à Patricia, quand vous retrouvez quelqu'un qui ne veut pas être retrouvé, qui ne veut pas revenir, qui ne veut même pas que sa famille ait des nouvelles, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites à ses proches qui vous ont demandé de le retrouver?
Aujourd'hui, on informe simplement les proches, mais notre compétence, si vous voulez, si j'ose dire, s'arrête là. C'est-à-dire que on ne peut pas. Alors je ne sais pas exactement. Enfin, j'admire enfin vraiment ce que dit Patricia de son rôle de médiateur. Mais nous, on ne peut pas faire ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être là finalement, dire, enfin voilà, réunir les gens et dire bon, maintenant vous faites la paix ou que sais-je. Nous, on est chargé par les familles d'essayer de retrouver la personne. Et ça s'arrête là. Si après la personne nous oppose un refus en nous disant je ne veux pas être retrouvée, je veux disparaître, eh bien. Voilà.
C'est son choix. Où en est ce statut de disparu volontaire? Vous en êtes à l'étape du lobbying pour qu'il voit le jour?
Oui, oui. Donc nous agissons toujours dans cette direction et nous portons les propositions donc, de l'association devant les pouvoirs publics et nous avançons bien. Il y a effectivement cette action donc, en faveur de la reconnaissance du statut de disparu volontaire, mais il y a aussi d'autres actions qui, elles, progressent très bien. Tout à l'heure, je parlais de tout ce qui allait pouvoir être fait en matière d'intelligence artificielle pour l'identification des cadavres aussi, parce que finalement, vous avez aussi beaucoup de gens qui disparaissent et qu'on retrouve à l'état de cadavre ou qu'on ne retrouve pas, et donc il va falloir les identifier. Nous sommes aujourd'hui vraiment en train d'avancer très très bien sur le sujet d'une collaboration avec la gendarmerie nationale sur ce plan-là. Donc je n'entre pas dans les détails, mais j'en dis simplement un mot pour que vous sachiez que voilà, nous avançons aussi en créant des partenariats avec les pouvoirs publics qui sont très intéressants et très prometteurs pour les familles.
Parce que même si la RIF a disparu, les pouvoirs publics sont encore sensibles à ces cas de disparition volontaire?
Absolument, et ils sont aussi très sensibles à l'implication de la société civile, donc sous la forme, là en l'occurrence, de la RPD, dans la recherche des personnes.
Et quel rôle joue la médiatisation? Elle est incontournable aujourd'hui en cas de disparition volontaire. Est-ce que vous faites souvent appel aux médias, l'une et l'autre, Patricia Faguet?
Non, je fais pas appel aux médias, mais je regrette d'ailleurs que la télévision, par exemple, ne soit pas utilisée davantage pour lancer des appels.
Vous voudriez que des appels genre alerte à enlèvement pour les disparitions d'enfants, qui est la même chose pour les disparitions d'adultes?
Par exemple, parce que la télé c'est quand même un vecteur important, donc je regrette qu'elle soit pas utilisée à des fins plus utiles que ce qu'on y voit.
Et une émission comme Perdu de vue, vous regrettez qu'elle a disparu? Vous aimeriez bien qu'elle ressurgisse?
Bien sûr, je ne suis pas la seule. Hein.
Moi aussi.
C'est vrai?
Oui, je suis une grande fan de...
Et puis il y a une grosse demande.
Et alors, votre association, Axelle Girard, est-ce qu'elle fait appel aux médias?
Alors nous ne faisons pas... nous ne faisons pas systématiquement appel aux médias, mais ça peut arriver, effectivement, passer par un journal pour diffuser un avis de recherche, ça nous est arrivé. Et puis nous diffusons aussi des avis de recherche par nous-mêmes, sur les abribus, ici ou là. Il y a quelques mois, je croisais deux gendarmes qui me demandaient ce que j'étais en train de faire, et donc je leur expliquais tout simplement que j'étais en train de coller des affiches pour retrouver une personne qu'on cherchait, qu'on a d'ailleurs retrouvée le lendemain.
Et une personne qui disparaît, est-ce qu'au bout d'un certain temps, elle est déclarée morte ou jamais? Puisqu'on entendait tout à l'heure au Japon... C'est au bout de 7 ans. Comment ça se passe en France?
En France, c'est très compliqué. En fait, là, vous avez l'intervention donc du juge civil qui va donc formuler une présomption d'absence. Voilà, puisqu'au bout d'un moment, effectivement, on peut pas laisser très concrètement les comptes courir, les prélèvements courir, avoir cours. Enfin bref, donc tout ça est très compliqué. Donc il y a à la disposition des familles des moyens pour mettre un terme à ce qui pourrait être indéfiniment une situation qui n'a pas de fin.
Parce qu'une femme dont le mari disparaît, du coup, n'a pas la possibilité de se remarier, par exemple.
En France?
Oui.
Tant que le décès n'a pas été déclaré, non. Il faut faire une constatation de présomption d'absence et également faire une déclaration d'absence. Donc la déclaration d'absence, elle permet de réduire le délai de 20 ans à 10 ans, c'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, le disparu va être considéré comme mort. Et à ce moment-là, ses biens peuvent être vendus, le mariage est rendu caduc. Donc même si le mort revient... son mariage aurait été rompu, mais lui, il peut par contre récupérer ses biens.
Vous avez des exemples de personnes voilà.
Non, j'en ai pas. Déjà, j'ai même pas d'exemple de disparus qui reviennent d'eux-mêmes. Parce qu'en général, quand on disparaît, on ne revient pas. Et plus le temps passe, moins on va revenir. Parce qu'on a honte.
Et parce qu'on a refait sa vie ailleurs.
Pas forcément. Mais parce qu'on a honte de revenir alors qu'on est parti et qu'on sait qu'on a laissé des gens dans la détresse. Mais en général, les gens qui disparaissent, on les retrouve pas si loin que ça de l'endroit où ils ont disparu et dans les mêmes circonstances de vie. Ils vivent dans les mêmes conditions, en fait.
Axelle Girard, vous avez, vous, des exemples de personnes qui sont revenues après avoir disparu volontairement plus ou moins longtemps?
Moi, je n'en connais pas personnellement. Je n'ai pas rencontré de personne qui a disparu et qui, après un certain temps, soit revenue. On ne perd jamais l'espoir de retrouver les gens. Là, comme je le disais tout à l'heure, on a quand même une famille qui nous a demandé de chercher une personne qui a disparu en 1976. On ne lâche rien, on continue nos recherches. Et qui sait, peut-être que demain, on arrivera à trouver cette personne qui aurait disparu volontairement ou pas, d'ailleurs. Et on verra si, oui ou non, on peut essayer de faire recoller les morceaux. When you get older, plain or sane. Oh,
emotions, understand the toil of expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke them if you got them, cause it's going down. All I ever wanted was you. Let's take a drink of heaven, this can turn around. Let's raise a glass or two to all the things I've lost on you. Oh, tell me how they lost on you. Oh, just that you could cut me loose. Oh, after everything I've lost on you.
Lost on You, LP sur RFI. Axel Girard, quel est le pourcentage de réussite de votre association dans sa quête de personnes disparues volontairement ?
Je vais forcément donner un bon chiffre. Non, je serais inexacte si je vous donnais un chiffre très précis. Notre association fonctionne bien. Elle fonctionne de mieux en mieux. Il y a de plus en plus de bénévoles qui ont à cœur de retrouver des personnes. Et encore une fois, nous ne savons pas d'entrée de jeu si la disparition est ou non inquiétante, est ou non volontaire, a été ou non considérée comme inquiétante par les services d'enquête. Mais les choses fonctionnent bien.
Patricia Faguet, même question. Combien de personnes avez-vous retrouvées depuis la création, il y a 19 ans, de votre site personnesdisparues.com ?
Alors, je n'ai pas tenu les chiffres à jour, mais je dirais plusieurs milliers, ça c'est sûr. Pour ce qui est du taux de réussite, il dépasse 90%. Après, moi, mes échecs, c'est effectivement les gens qui sont partis à l'étranger, dont on ignore le pays de départ. Et c'est les cas d'accouchement sous X, puisqu'on n'a pas d'identité, donc... Mais globalement, quand j'ai un nom, un prénom, je retrouve dans la majorité des cas.
Axel Girard, est-ce que la notion de liberté de disparaître peut être différente, perçue différemment d'un pays à l'autre ?
Je crois que la notion de liberté est jusqu'à ce jour un pilier de la philosophie, de la manière de penser du monde occidental. Et donc, selon moi, il est beaucoup plus facile, en tout cas, de mettre en avant le désir de disparition volontaire et l'exercice donc, d'une liberté dans ce sens que dans d'autres pays où j'ai pu voyager et séjourner par ailleurs. Tout à l'heure, on parlait du Japon. Je trouve qu'il serait très intéressant aussi d'étudier la question en Chine des disparitions volontaires, puisque la question de la face et de la perte de face est également très, très, très importante en Chine. Mais il y a des structures familiales qui sont aussi différentes et qui ont toute leur place. La famille, c'est quelque chose de très central en Chine. Donc voilà, je pense que c'est très intéressant d'étudier, éventuellement faire une comparaison. Donc, peut-être que notre géographe qu'on a interviewé tout à l'heure pourrait faire ça.
Spécialiste du Japon voilà. À Genève. 7 milliards de voisins touchent à sa fin. Axel Girard, Patricia Faguet, merci beaucoup d'avoir été nos invités. Axel, je rappelle que vous êtes la représentante en Ile-de-France de l'association ARPD, Assistance et Recherche de Personnes Disparues. Patricia, vous êtes journaliste enquêtrice. Votre site internet s'appelle personnesdisparues.com et vous avez publié en 2017 « Disparu sans laisser d'adresse » aux éditions L'Opportun. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Sigrid Azeroual, Delphine de Dianous et Romain Dubrac. Demain, dans 7 milliards de voisins, une question : comment s'imposer dans un milieu d'hommes quand on est une femme ?